France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Nina Bouraoui.
Elsa Boublil.
Force de vie.
L'amour d'enfant de mon rêve, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi.
C'est sur cet air de Carmen, cette femme libertaire et indépendante qui interroge la véracité des sentiments des autres, que nous vous accueillons, Nina Bouraoui, écrivaine, prix Renaudot en 2005 pour Mes mauvaises pensées et du livre Inter en 91 pour votre premier roman La voyeuse interdite. Vous avez publié en septembre dernier Tous les hommes désirent naturellement savoir chez Jean-Claude Lattès, un roman autobiographique dans lequel vous interrogez les origines toutes et s'il y en a de votre homosexualité, l'origine aussi de la naissance des mots, ce que vous nous offrez avec tant de douceur dans ce roman, ces mots dont vous avez longtemps cru qu'ils protègent, réparent et rendent meilleurs, là je vous cite, des mots que vous aimez chanter aussi, la chanson française étant régulièrement citée dans ce roman, mais un roman surtout dont on retient, et comme vous le disiez en ouverture de cette émission, la force de vie. Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
C'est vrai que vous l'avez dit, c'est un mantra presque, force de vie, vous le répétez le matin en vous réveillant.
Oui, je l'ai inventé il y a plusieurs années, parce que parfois nous sommes traversés par des forces de mort. C'est ainsi que l'humain se tient en équilibre et en déséquilibre pour me rattraper dans mes ombres. Alors j'ai plus de soleil que d'ombre, hein. Je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Contrairement à ce que pourraient faire penser mes livres, je rêve de légèreté absolue. Évidemment, je n'atteins pas toujours, mais je m'émerveille toujours du miracle de la vie. Et justement, la force de vie, c'est celle qui fait continuer à écrire, à créer, à aimer, à croire en ce monde parfois... qui est d'une rare violence et d'une rare injustice. C'est ce qui maintient debout. On devrait toujours répéter ça. Puis je crois beaucoup à la pensée magique. Répéter une phrase, finalement, elle finit par être inoculée en soi.
L'ombre et la lumière sont très présents dans votre dernier roman. D'ailleurs, la force de vie est possible parce que la force de mort est là.
Oui, et comme la vie est tellement sacrée parce que la mort, hélas... alors moi, je ne veux pas dire ça, sinon je ne vais pas dormir la nuit. Mais alors en avoir conscience de façon absolue serait une attitude totalement névrosée ou dépressive. Mais il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là, non pas pour apprécier la vie, mais pour apprécier l'autre. Et se dire que finalement, nous sommes tous semblables, pas à cause de cette optique, à cause de ce destin funeste, et que peut-être il y aurait un amour plus général et plus gratuit si nous nous rappelions que nous sommes tous dans cette même barque qui dérive vers ce fleuve noir, mais dont personne n'est revenu. Donc ça laisse présager beaucoup d'espoir.
Carmen en ouverture de cette émission, parce que la force de vie l'habite aussi. Hein, Carmen, avec ce titre « L'amour est enfant » de Bohème, c'est omniprésent aussi chez vous, autant d'ailleurs l'enfance que l'amour.
Oui, je crois que l'amour est vraiment ce qui devrait non seulement peut-être nous porter, mais parfois nous détruire, parce que c'est toujours une expérience extrêmement intéressante. Lorsqu'on est quitté, on se relie à d'autres abandons. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on se relie aussi au principe de liberté. Sommes-nous libres de choisir ce que nous allons aimer? Est-ce que finalement le hasard existe? Ou sommes-nous pas conditionnés jusque dans nos amours par le passé de nos ancêtres?
C'est la question que vous posez, notamment dans ce roman « Tous les hommes désirent naturellement savoir » paru chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes l'invité de Musique et moi jusqu'à midi et demi sur France Musique, Nina Bouraoui.
Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler, dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit, quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager? Et il plongea dans la mare. ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait : l'oiseau est occupé à discuter. Je veux en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention ! Cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis qu'au milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés.
Un extrait de Pierre et le loup, interprété là à la voix par Gérard Philippe. Pour commencer cet entretien avec vous, Nina Bouraoui, Gérard Philippe, c'est votre génération. C'est...
Ah mais totalement, moi je me souviens très bien de cet album. Et j'ai grandi dans un lieu particulier qui s'appelle la Résidence, qui est sur les hauteurs d'Alger et qui est bordé par un parc sublime, énigmatique, avec une grande forêt d'eucalyptus. Et on dit que cette résidence a été traversée... pendant la guerre d'Algérie, par des massacres épouvantables et que certaines âmes ne sont pas élevées. Et c'est vrai que Prokofiev, c'était l'accès à l'imaginaire, l'accès au second monde, l'accès à la peur aussi. Moi, ça me faisait très peur.
Ah oui.
Et Gérard Philippe ne me rassurait pas, bizarrement. Moi, j'étais plutôt petite. Et je me souviens d'écouter cet album avec ma sœur et après d'essayer d'emporter la magie de cette musique-là dans ce parc-là. On se faisait beaucoup peur. Dans cette forêt, la terre était très présente.
On chantait,
on s'imaginait, on a cherché le loup toute notre enfance.
Ah
hein. Il nous est arrivé de le rencontrer et de fuir très vite. Mais le loup, le loup-garou, bien sûr, sont des thèmes des anxiétés, des grandes angoisses d'enfants. Mais je pense qu'en Algérie, pour les enfants, c'était quelque chose de très prégnant. Parce que, aussi bien cette terre était magnétique, sublime, d'une poésie absolue, et j'ai eu mes premiers émois esthétiques là-bas, mais c'était aussi l'expérience quotidienne de la violence, parce que c'était un pays dans les années 70 qui sortait de la guerre et qui était, j'ai ce souvenir, très viril. Et lorsqu'on était une petite fille, gare au loup.
Mais d'ailleurs, c'est étonnant parce que votre mère, par amour pour votre père, sans doute, est venue vivre en Algérie à cette époque-là. C'est un choix... difficile, enfin j'imagine qu'elle y est allée...
Alors je ne sais pas si c'était difficile, ma mère était une grande amoureuse, toujours une résistante, une sorte de révolutionnaire poétique, et elle rencontre mon père au début des années 60, alors que l'Algérie est en pleine guerre d'indépendance. Elle est française, elle épouse ce jeune français musulman en France, et tous les deux rentrent en Algérie pour construire cette Algérie nouvelle. Et je me souviens que moi, j'ai grandi dans un appartement où tout le monde pouvait arriver à n'importe quelle heure de la soirée. Il y avait toujours un couvert pour quelqu'un. Et le débat d'idées, c'était très important. Ma mère fréquentait une amie qui faisait partie des Black Panthers. C'était totalement normal. Mon père était très lié à un homme qui, plus tard, a fait de la politique et d'ailleurs qui a été éliminé, comme on disait à l'époque. Tout d'un coup, cette Algérie foisonnante, intellectuelle, ça a duré jusqu'à la fin. Disons que à mi-80, on a compris que les illusions commençaient à se perdre. On a compris que le modèle iranien commençait à devenir de plus en plus envahissant et que les femmes portaient de plus en plus le hijab. Et qu'il y avait des brigades comme ça pour savoir si les musulmans fêtaient Noël, buvaient de l'alcool. Mais je veux dire, moi, j'ai grandi vraiment, avec cette... je crois que je tiens de ma mère. La résistance et ne être... non pas contre nature, mais être à l'inverse de ce qu'on attend de nous.
Donc avec la culture occidentale aussi bien présente
totalement,
et la musique.
Ma mère était On écoutait beaucoup de musique classique à la maison, c'était important. Ça allait avec les livres, ça allait avec les littératures, ça allait aussi avec le jazz, ça allait aussi avec John Baez. Il y avait comme ça le débat d'idées, l'art et la beauté étaient des piliers formateurs.
Thank you.
La pie voleuse de Rossini, extrait de la bande originale du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ça vous replonge directement, Nina Bouraoui, dans votre prime enfance, enfin un peu plus tard, mais relativement tôt quand même.
Relativement tôt, j'ai l'album. Alors un peu plus tard, je crois que le livre, le film sort en 71 de Kubrick et moi je dois l'écouter peut-être en 74, 75, ouais. Je dois avoir 7 ou 8 ans. Et c'est très bizarre parce que moi j'ai une enfance assez curieuse. J'ai un acolyte qui s'appelle Ali, enfin il s'appelle Ali dans le livre, et qui est un petit peu mon jumeau maléfique. Nous nous entraînons dans des sortes de jeux d'une grande brutalité, d'une grande sensualité aussi. Nous sommes vraiment à la fois deux garçons ou deux mi-filles, mi-garçons. On fait un couple très étrange. Et ce disque, je sais que ma mère va voir Orange Mécanique à Paris, qu'elle est totalement traumatisée, mais elle parle beaucoup parce que ma mère rapportait toujours ses expériences, que ce soit amoureuses ou culturelles. Je le disais tout à l'heure, la parole était vraiment au cœur de notre famille. Et elle raconte ce film. Et moi, j'ai ce double album. Et il y a des photos du film avec ces garçons, avec leurs chapeaux, leurs tenues blanches, leurs cannes.
Ça fait peur, hein.
Ah, c'est un film épouvantable. Et c'est marrant parce que je l'ai vu, évidemment, des années plus tard. Et cette violence des cités, des villes, on se disait ça n'arrivera jamais, mais finalement, c'est arrivé. Et avec Ali, nous écoutons comme de fous cette pie voleuse et nous montons la tête. Nous devenons les délinquants d'Orange Mécanique. Et nous parcourons, je crois qu'en Algérie, il y avait... Quand même, on a souvent dit que cette terre était très magnétique. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Et je suis persuadée des liens entre la terre et les humains. Je suis persuadée qu'un environnement peut aussi conditionner un comportement. Je pense que nous ne sommes pas neutres de ça. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas neutres d'un héritage qui ne nous appartient pas, de nos ancêtres. Mais nous ne sommes pas neutres, nous étions bombardés à la fois de beauté, mais aussi de violence tellurique. Nous, on a réchappé à un tremblement de terre. Mon père, il n'y a pas très longtemps, à un autre tremblement de terre encore plus violent. Et nous étions deux tremblements de terre avec Amine. Et ça, cette musique-là, c'était Orange Mécanique, mais c'était aussi le grandiose de la musique classique. La musique classique, tout d'un coup, donne du pouvoir. D'ailleurs, ça fait peur.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
La violence est très présente, Nina Bouraoui, dans « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Il y a la violence que vous évoquez à l'instant, la violence tellurique, la violence de la terre, l'atmosphère. Mais il y a aussi la violence qu'a subie votre mère. Ça, c'était quelque chose d'omniprésent et qui vous a traversé. J'imagine que cette musique aussi peut renvoyer à ce genre de violence-là.
Oui, parce que ma mère avait été très perturbée par ce film, parce qu'elle en faisait peut-être l'expérience, non pas quotidienne, mais assez régulière. Je me suis souvent demandé pourquoi ma mère était devenue une proie. Je pense qu'il y a un épisode dans son enfance qui est compliqué. Il y a un homme qui vit dans la maison familiale, qui revient des camps et qui va... comment dirais-je, pour ne pas être ni vulgaire, ni enlevé du propos ou de la force, mais en tous les cas, qui va entrer dans la chambre des enfants. Et moi, comme je suis quand même un écrivain de la pudeur et parfois de la morale, j'ai ouvert la porte et je l'ai refermée. Mais elle a cette expérience-là. Et puis quand elle arrive en Algérie, c'est les années 70, ma mère est très belle, plutôt très sexy, et elle ne veut absolument pas s'habiller de façon plus longue ou moins. Elle n'est pas provocante, c'est juste une très belle jeune
libre,
femme.
En fait, hein.
Elle est libre, elle travaille, elle conduit, elle va apprendre l'arabe, et surtout elle va nous faire connaître notre pays. Donc elle sera toujours en contact avec des hommes qui n'auront pas toujours des gestes appropriés à son égard, mais elle va nous donner une leçon de bienveillance et de gentillesse. Elle nous fait aimer notre nationalité algérienne et nous fait connaître tant d'amis algériens.
La rêverie du soir de la suite algérienne, opus 60 de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, qui est mort en Algérie où il passait ses hivers, Nina Bouraoui, c'était pour évoquer justement avec vous cette sensation que l'on a quand on lit Tous les hommes désirent naturellement savoir, d'une nature à profusion, d'un soleil qui est d'une chaleur comme on peut le ressentir peut-être dans cette rêverie du soir, et d'une sensualité au fond. C'est le souvenir qu'on en garde quand on vous lit.
Oui, parce que ce sont vraiment mes premiers souvenirs sensuels et de liberté, étrangement. Parce que l'Algérie, même dans les années 70, c'est un pays où la parole est un peu corsetée. On fait attention à pas trop... Il ne faut jamais critiquer, par exemple, le gouvernement si on est au téléphone. Tout le monde se sent écouté. Bon, la paranoïa est quand même une névrose algérienne, quand même, très propre aux Algériens. Je parle pour moi, je ne parle pas pour eux. Mais c'est vrai que... C'est un pays qui est totalement sauvage parce que qui ne s'ouvre pas du tout au tourisme. C'est-à-dire qu'après la guerre d'indépendance, les Français partent. Je trouve que c'est un déchirement épouvantable parce que ce sont des frères et des sœurs qu'on sépare. Quoi qu'on dise, moi je sais qu'il y a beaucoup d'amour entre la France et l'Algérie. Mon père avait des amis italiens, espagnols, français, de confession catholique ou juive. Et il m'a toujours dit, j'ai perdu mes frères et mes sœurs. Et c'était vraiment un arrachement. Et je peux le comprendre parce que moi, avec ma sœur, nous sommes de deux nationalités. Et quand on arrive dans les années 80 en France, on nous appelle les pieds noirs de la seconde génération. Et quand je vois ces pieds noirs qui ne veulent pas retourner là-bas parce qu'ils ne veulent pas retrouver un passé qui n'existe plus, ou quand ils y retournent, leurs larmes, je les partage. Et je les partage en tant qu'Algérienne. Nous sommes les mêmes. Et je ne supporte pas les différences qu'on puisse faire parce que c'est pareil. Et ce pays marque à tout jamais parce que c'est la campagne, la montagne, mais c'est surtout 80% du pays, je crois, je dis peut-être des bêtises, en tout cas du territoire, c'est le Sahara, c'est le Tassili, c'est le Hoggar. Et c'est au centre du Sahara, lorsque j'ai la chance, par ma chère mère qui nous emmène en GS, on prend la Transsaharienne et puis après on fait des bivouacs avec des guides à pied, 25 km à pied. Quand on a 7 ans, c'est pas rien. Et on s'endort le soir à la Belle Étoile, autour d'un feu, contre les grottes où il y a des peintures rupestres. Et je vois des dessins, et le livre naît vraiment de ça, d'hommes et de femmes avec des arcs, des flèches, des animaux, une luxuriance qui n'existe plus dans le Sahara. Et c'est le point de départ de mon livre, à savoir, nous dépendons de ces hommes et de ces femmes. Nous dépendons de leur séisme, de leur guerre, de leurs amours aussi peut-être. Nous dépendons, nous avons tous en nous à la fois leur part de frayeur, de sauvagerie et de bonheur. Nous sommes des réplicants.
Donc cette rêverie du soir peut vous parler de Camille Saint-Saëns, elle vous évoque cette...
Totalement, pour moi c'est l'Algérie quand j'entends ça. Parce que l'Algérie c'est un mélange de douceur et de brutalité. Elle est savante pour ça.
Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, interprétée par Katia Bunyatishvili. Cette pavane qui a marqué vos années en France, je crois, Nina Bouraoui, les premières années en tout cas, en plus ça coïncide avec l'âge adulte quasiment.
Oui, ce sont mes... J'arrive à Paris, j'ai 18 ans, j'arrive des Émirats parce qu'entre-temps je suis arrivée à Paris à 14 ans, après on a voyagé, on est allé en Suisse, et puis j'ai mon bac... à Abu Dhabi, et j'arrive à Paris. Et Pavane, c'est vraiment, c'est pas mon hymne à la joie, mais c'est mon hymne à la tristesse, à la mélancolie. Mais j'aime m'y répandre, dans cette mélancolie, parce que je sais que je suis un écrivain, je ne doute de rien. Ce n'est pas de l'ego, mais c'est la seule façon de m'inscrire dans le monde, la seule façon de vivre ma jeunesse, de lui donner une orientation, parce que je suis un cancre, je vais à la faculté d'Assas. Et puis, comme tout homosexuel, à force de mépris, c'est-à-dire à force de prendre de l'amitié pour de l'amour, de la tendresse pour du désir, tout d'un coup, je feuillette les pages du Pariscope et je me dis allons chez les professionnels et je vais au Katmandou, ce club réservé aux femmes, rue du Vieux-Colombier, 4 fois par semaine. Je suis la plus jeune, j'ai 18 ans, et Lula Perrin me prend sous son aile, c'est une femme de la nuit, et je fréquente tout d'un coup des avocates, des médecins, des prostituées, des anciennes détenues, des femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Moi, je suis le bébé, je suis au bar, je regarde, et quand je rentre chez moi, j'écoute Pavane, parce que forcément, je suis un cœur d'artichaut, on le brise souvent.
Parce qu'à ce moment-là, Nina Bouraoui, c'est intéressant, on le perçoit, dans Tous les hommes désirent naturellement savoir. Vous savez clairement que vous êtes homosexuel, et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hésitation, enfin, ou du moins de la...
Non, j'ai jamais hésité. Je pense que c'est une évidence lorsque je suis enfant, parce que ça me donne beaucoup de bonheur, de joie, de poésie, et je suis fidèle à ce que je suis, je trahis pas ma nature. À l'adolescence, c'est compliqué, parce que quand on est un adolescent, on ne veut pas fuir le groupe, on veut être comme les autres. Et là, je vais me trahir, parce que je vais essayer moi aussi de flirter avec des garçons, mais ce n'est pas ma nature, ce n'est pas ainsi. Après, j'éprouve ce que chaque homosexuel adolescent à éprouver, une fois dans sa vie, et c'est plutôt triste, le propre rejet de moi-même, le propre dégoût de moi-même. Non pas, je ne me juge pas, ce sont les autres qui me jugent, et lorsqu'on est jeune, on n'a pas assez de défense pour faire paroi, faire bouclier entre le jugement des autres. Quand une société ne vous représente jamais, quand elle ne parle jamais de vous en positif, quand vous rasez les murs pour aller dans un endroit qui soi-disant vous ressemble, mais bien sûr qu'il ne vous ressemble pas. Ce n'est pas parce que nous sommes homosexuels que nous nous aimons tous et toutes. Nous sommes tous des individus à part entière avec le désir n'a jamais légiféré pour moi, pas du tout. Ça, c'est une grave erreur. Mais quand on est plongé dans une telle solitude, ce n'est pas une hésitation. Moi, je n'ai jamais regretté. Je pense que mon homosexualité m'a donné du talent et m'a donné de l'intelligence et surtout m'a appris la tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui est la minorité, le fragile, l'étranger. Un homosexuel, c'est un étranger dans une ville, dans une cité, dans une société. Vraiment, nous subissons ça. Et moi, j'ai très peur aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une visibilité à Paris, c'est merveilleux. Quelle ville merveilleuse, Paris. Mais tous les lundis matins, moi, je suis beaucoup suivie par de jeunes homosexuels, notamment sur Facebook, Instagram. Et Facebook, le lundi matin, il y a sans arrêt des photos d'adolescents pleins d'ecchymoses.
D'agressions, oui.
D'agressions, parce qu'on sort de boîtes, de garçons, de filles qui s'embrassent, qui se font agresser à Paris en 2018. Ne l'oublions pas.
Alors, cette pavane a pu consoler cette difficulté de s'assumer, Nina Bouraoui?
Oui, cette pavane était une amie, vraiment. Ouais. Ravel était un ami. J'ai commencé à écrire, entre autres. C'était comme l'air récurrent, l'air de ma mélancolie, mais peut-être aussi l'air de la victoire. Hein, n'oubliez pas, force de vie, c'était déjà là.
Till dawn. You don't need experience.
De Prince. C'est une chanson qui est citée dans Tous les hommes désirent naturellement savoir, Nina Bouraoui. Et on sent que la musique a joué vraiment ce rôle aussi dans cette découverte de vous-même et peut-être aussi dans cette acceptation de ce que vous êtes.
Oui, c'était très important. Je manquais de référents, je pense, littéraires. Moi, j'ai surtout lu Colette, donc c'était les Claudines, c'était plutôt mignon. Après, j'ai découvert Patricia Highsmith. Bien sûr, Marcel Proust, Hervé Guibert, mais ça, c'était beaucoup plus tard. Mais la musique, c'est la joie. Voilà, c'est vraiment, quelles que soient les musiques. C'est vrai que j'ai souvent dit que je revendique aussi mon droit au mauvais goût. J'ai pas du tout honte d'aimer des choses qui ne sont pas forcément très bon goût. Mais je crois que la musique est... comment s'en passer ? C'est le souffle, c'est l'âme. Et lorsqu'on est justement différent, on est tellement sensible qu'on est fissuré de partout. Et la musique entre dans ces fissures et vous porte. Et c'est vrai que la musique, c'était aussi la nuit, c'était la joie. Sauf que moi, je ne dansais absolument pas. Oui. C'était souvent des lieux de rencontre. Je ne rencontrais pas grand monde, mais je rencontrais des amis. Parce que j'étais toujours à la lisière. Moi, j'ai flirté... avec les falaises, mais j'ai jamais sauté de la falaise. Mais j'en ai vu sauter, hélas, beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a protégé ?
Je pense que mon éducation, l'amour de ma mère, ma passion pour l'écriture, c'était mon salut, vraiment. Je crois que c'était ça aussi, la force de vie, se dire qu'on peut réinventer sa vie. Et surtout, j'avais cette vision un peu étrange de moi-même et qui était assez triste. J'étais sûre que si je publiais, si je devenais un écrivain, j'allais dire entre guillemets établi, je n'aime pas ce mot, mais en tous les cas, profession écrivain, sur la carte, je me disais que ça allait pardonner mon homosexualité. Ce qui est une pensée triste, mais de jeunesse. On légitimise... par le don, ce qu'on croit être une absence de don. Parce que je pense que mon homosexualité, j'ai souvent pensé qu'elle me desservait alors qu'elle m'a tant servi.
Et je peux vous citer, il y a Allez-y. Le chapitre Devenir, page 76. En rentrant du 4, j'écris pour me faire pardonner mon homosexualité et pour me faire aimer. Je rêve de livres remparts et de reconnaissance. Il me faudra des années pour déconstruire l'idée fausse que les mots protègent, réparent ou rendent meilleurs. On est exactement dans cette difficulté, en fait, parce que finalement, vous vous échappez par l'écriture, mais l'écriture vous rattrape.
Oui, l'écriture me rattrape, et en plus, je fais le choix d'avoir une écriture honnête où tout d'un coup c'est mon être qui est révélé. Alors vous savez, c'est très difficile, on ne s'en rend pas compte une fois le livre achevé, lorsque j'en parle, lorsque je le défends, mais j'ai quand même l'impression d'être souvent nue hein, sur un plateau de télévision, dans un studio d'enregistrement, parce que... Il me semblait que parler de moi, c'était parler des autres. Et j'ai souvent dit que je n'étais pas une militante, mais si, je suis une militante. Je pense qu'il est aujourd'hui important d'écrire pour ceux qui n'ont pas la parole. Il est important de la proférer, cette parole. Mais attention, ce sera toujours une parole douceur, parce que c'est mon arme, et pudique.
L'ensemble Sarbande qui interprète la gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie. Éric Satie, Nina Bouraoui, c'est Paris pour vous, hein. C'est vraiment...
Oui, c'est Paris. Je trouve que c'est vraiment le compositeur de la jeunesse. Quand on est jeune, on n'échappe pas à Éric Satie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être la jeunesse est un mélange à la fois de folie et d'absence de folie. Je trouve que la jeunesse, c'est... sans arrêt, avoir des sortes de concepts et de préceptes et de dogmes et passer sa vie à les défaire et à y revenir. C'est ça pour moi la jeunesse. Et Satie accompagne bien par sa douceur et par sa modernité, cette espèce de combat entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière.
Alors cette version orientale, c'était choisi pour vous, bien sûr. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça reste fidèle à ce que vous faites comme idée de
d'Eric Satie? Très fidèle, et comme il y a un mot très à la mode en ce moment, on dit augmenter, hein, je n'aime pas ce mot, mais je trouve sublime, je ne connaissais pas. C'est très très émouvant. Mais vous voyez, dès qu'il y a une sorte de couleur orientale, on a tout de suite les larmes aux yeux, hein. C'est fou quand même.
C'est l'instrument qui veut ça, c'est quoi?
Peut-être la sensualité qui s'en dégage, ce sera toujours les femmes d'Alger de la Croix, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai découvert vraiment la puissance, la force et l'humilité des femmes en Algérie. Toutes ces femmes, j'ai vécu dans une résidence, et quand on vit dans une résidence, on est en contact avec ses voisins, ses voisines, les mères et les grands-mères de ses voisins et de ses voisines. Et moi, je me souviens, moi qui ressemblais à un petit garçon, malgré moi, je ne me sentais pas vraiment garçon, je me sentais totalement queer ou punk. Comme c'était les années 70, je pouvais m'habiller comme je voulais. C'était ma sœur qui me coupait les cheveux, elle n'avait que 5 ans plus que moi, donc c'était une catastrophe. Mais ces femmes-là me serraient contre leurs seins, contre leur cou, contre leur peau, avec ces mains roux, orange de henné. Il y avait, voilà, la femme orientale, c'est toute cette tendresse.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Dans le questionnaire qu'on vous a envoyé, auquel vous avez répondu très gentiment, vous dites que Eric Satie entoure votre écriture et accompagne vos mots. Vous pouvez préciser votre pensée?
Oui, parce qu'après avoir pleuré sur ma vanne, je commence mon premier roman, La Voyeuse Interdite, avec... vraiment Satie en compagnon de nuit ou au petit matin. Pourquoi ? Parce que j'ai une infinie tendresse et une infinie admiration pour Marguerite Duras. Et Marguerite Duras apprend que l'écriture, c'est aussi la musique. D'ailleurs, elle écrit un livre qui s'appelle « Moderato cantabile », « Modéré et chantant ». Et il y a une interview d'elle où elle dit « Les gens méchants sont des gens qui sont détournés ou désertés par la musique ». Elle dit aussi qu'il y a des livres qui sont de la littérature, et puis il y a des livres de bain, des livres de plage, et ceux-là, eux aussi, sont désertés par la musique. Et pour moi, lorsque j'écris, je me relis à voix haute. Il faut que j'entende. Ce livre est construit comme une partition. Je suis très exigeante avec mes textes. J'y pense pendant 11 mois. Je les écris en un mois. Alors c'est un peu étrange comme emploi du temps, parce que j'écris toute la journée, toute la nuit. Mais chaque mot, rien n'est laissé au hasard. C'est une partition. Et Satie, justement, accompagnait ce mouvement. C'était facile de se relire à voix haute sur Satie.
Et ce dernier roman est tout à fait doux et chantant, en effet. L'adagio du concerto pour piano numéro 23 en La majeure de Mozart, interprété par Rudolf Serkin avec l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction de Claudio Abbado. C'est un souvenir étrange, Nina Bouraoui, de s'imaginer que vous avez écouté en boucle presque ce concerto à Abu Dhabi.
Oui, c'est bizarre, mais c'est la vérité. En fait, mon père a été nommé à Abu Dhabi, c'était au début des années 80, et nous l'avons suivi. Moi, j'ai passé mon bac là-bas. Et dans ce pays qui commençait, qui avait à peine 30 ans, nous avions une maison en dehors de la ville, entourée d'autres maisons qui avaient gardé leurs enclos avec un dromadaire, parce que les Émiratis disaient « si Dieu nous a donné le pétrole, il peut nous le reprendre ». Donc gardons le désert pour toujours tracer la route et continuer cette vie de nomade. Et c'est vrai que j'ai fait alors l'expérience avec, c'est la grande expérience du vide, parce que ce sont des villes qui sont totalement superficielles. Si on arrête de les arroser, elles meurent. Tout est, à l'époque, en tous les cas, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de cinéma. Les grandes sorties, c'était au centre commercial. Très vite, il fait 50 degrés. On est dans des atmosphères très climatisées. Et dans cette grande maison où mes parents habitaient, et je dirais, ont eu la chance parce que moi, ça durait quoi, 5 ans. J'allais en vacances après les voir, mais je suis heureuse d'avoir connu les Émirats avant les Émirats d'aujourd'hui. Mmh. Et puis voilà, c'était quelque chose quand même, un retour, j'allais dire presque aux sources, parce que ce n'était pas si clinquant que ça, en tous les cas, à l'époque. Et moi, comme je traversais toujours la mer pour venir voir mes parents, j'avais toujours les ébauches de mon premier roman qui me suivaient partout, tel un talisman. Et j'ai beaucoup écrit dans un jardin d'hiver climatisé, justement, dans les Émirats, avec Mozart. Et
mais sur les oreilles, du coup, Mozart ?
Non, c'était dans la maison. C'était super parce qu'il y avait des espèces d'enceintes un peu partout, cachées. Vous savez, les maisons à Abu Dhabi, elles sont, tout est exagéré, tout est... alors, c'est toujours, parfois, c'est un peu difficile de trouver des choses qui ont du goût, mais il y avait cette opulence. Bon, après, quand ça se termine, ça se termine. On vous dit merci, quittez le pays, merci, au revoir, ne revenez plus jamais. Ce sont des contrats. Hein. Puis mon père a eu un contrat avec le Fonds monétaire arabe, puis après avec une banque arabe. C'était juste avant la décennie noire. Mais c'était une expérience enrichissante parce que je me suis aperçue que je n'arrivais pas à parler arabe, que j'avais pourtant appris l'arabe à l'école, mais c'était une langue qui ne prenait pas sur moi. Donc j'ai développé une autre langue qui était l'anglais et je partais, mon lycée était dans le désert et je partais, les chauffeurs de taxi étaient des sikhs avec des longues barbes et qui avaient les yeux injectés de jaune et de rouge parce qu'ils mâchaient un truc, je sais pas si c'était la coca, enfin ils mâchaient. Et c'était, tout ça était normal, je prenais le taxi, je traversais le désert seul avec un chauffeur sikh. Et la musique classique était très présente parce que je trouve qu'elle allait bien avec l'immensité du vide. Tout ça coïncidait parfaitement. Et c'était romantique parce que je m'aperçois finalement que je suis une très grande romantique. Thank you.
Gelosia tuggia rendi l'alma mia de Vivaldi, extrait de Ottone in Villa, interprété par Léa Desandré et Les Arts Florissants sous la direction de William Christie. Vivaldi, pour parler de la gaieté, votre fameuse gaieté, Nina Bouraoui, en fait, j'ai l'impression que vous avez associé la musique classique à l'introspection, à la profondeur, à la tristesse finalement, et que pour goûter à la gaieté, vous allez vers d'autres musiques.
Oui, c'est vrai. Pour moi, la musique classique, elle, alors, mais c'est pas, ça ne doit pas être ni repoussant, ni rebutant, pas du tout. C'est bien. Je trouve que nous avons un droit à la tristesse, le droit au bonheur absolu, et parfois une forme de dictature. Nous avons le droit à la mélancolie, nous avons le droit de tomber. Moi, il m'arrive de tomber. J'ai pas honte de ça. Parce que marcher droit, c'est s'être relevé d'une chute. Et je trouve que nos chutes, sont des expériences très bénéfiques et c'est peut-être pour ça que j'ai un sens de la poésie. Vous savez, moi, quand je suis dehors, je regarde toujours le ciel. Pour moi, c'est un élément du décor extrêmement important. Qu'il soit gris, qu'il soit bleu, qu'il soit jaune, qu'il soit menaçant, qu'il soit clair. Pour moi, mon inspiration vient peut-être du ciel. Alors, j'ai souvent dit que j'étais mystique. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Ma mère étant une athée révolutionnaire, mon père, je dirais, un musulman...
laïque.
Voilà. Et puis aussi très solitaire, c'est-à-dire que lui n'impose rien à personne. Et je trouve qu'il a son chemin de religion est un chemin personnel. Et finalement, la religion devrait toujours être personnelle. Il me semble que c'est une affaire entre soi et soi. Ma religion, elle est différente, elle est peut-être païenne, elle est peut-être... Oui, mon Dieu, c'est la nature, c'est la poésie, c'est la beauté, c'est la légèreté de Vivaldi, mais c'est aussi, en effet, cette tristesse, la musique classique, c'est la réflexion. Et donc la légèreté, en effet, je l'ai trouvée dans la variété, dans la chanson. J'écris de la chanson française, j'écris pour Céline Dion. Et c'était un plaisir infini aussi, parce que tout d'un coup, écrire pour quelqu'un, nous ne sommes plus seuls. La littérature est quand même une pratique solitaire et parfois, elle ne rend pas névrosée, mais elle rend fragile.
Nikita Magaloff, interprète ce nocturne de Chopin. Les nocturnes, c'est cette atmosphère de la nuit que vous avez tant côtoyée, Nina Bouraoui. Est-ce que Chopin, vous l'aimez aussi pour cette atmosphère qu'il arrive à nous faire vivre, cette atmosphère nocturne, en effet, où l'on sent bien que c'est un autre esprit à ce moment-là qui s'éveille?
Oui, c'est vrai que c'est un spécialiste de la nuit, mais aussi de la délicatesse, de la blessure, de la souffrance amoureuse. On a envie de le serrer contre soi, oui. Chopin, et de l'embrasser, de le consoler. Mais lui nous console tellement. Pour moi, c'est un génie. C'est le génie absolu, infini, qui en plus, lorsqu'on est jeune, la musique classique peut rebuter, peut faire peur. J'ai parlé de Satie tout à l'heure, mais je trouve que Chopin aussi est un bon compagnon de nuit et d'après-nuit mélancolique. C'est beau de transformer la mélancolie en beauté, c'est beau de transformer l'âpre en douceur, c'est beau de transformer la rudesse en absolue beauté, comme des perles. Je trouve qu'il y a du talent à créer de ces failles, et je trouve que lui l'a tant bien fait, et ce n'est jamais pesant, ce n'est jamais larmoyant. C'est une intelligence du cœur, ce sont les battements de son cœur, épris, pas épris, compliqué, la complexité de l'être. Finalement, c'est difficile d'être un être vivant, de s'inscrire dans la vie, de rester debout. Alors l'art nous aide à rester debout.
Alors justement, vous, Nina Bouraoui, oui, puisque l'heure est venue de se quitter, est-ce que l'écriture de ce roman, Tous les hommes désirent naturellement savoir, qui a paru chez Jean-Claude Lattès à la rentrée, là, vous a permis de justement d'apaiser une partie de vous-même, ou de soigner, de guérir, d'adoucir?
Oui, c'est vrai qu'il m'a, il m'a rappelé que la douceur était une arme, et peut-être la meilleure des armes. Il m'a rappelé que lorsqu'on choisit ses mots avec délicatesse, il est facile de faire comprendre un message. Il est facile d'aider des jeunes un peu perdus dans leur solitude. Il est facile d'enseigner à des esprits obtus, fermés, la liberté et le respect de l'autre.
On va se quitter avec un compositeur que vous avez découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, Edvard Grieg.
Oui, c'est vrai, sur une route de Provence. J'allais dans un endroit que j'adore, qui s'appelle le Château Lacoste. C'est à 15-20 minutes d'Aix-en-Provence. Et dans ce domaine hallucinant, nous pouvons découvrir les œuvres de Louise Bourgeois, etc. Le domaine est hallucinant. Et c'était, lorsqu'on arrive sur cette route, c'est comme une forêt enchantée. J'étais avec la femme que j'aime et elle m'a fait découvrir. Alors, je le dis parce que je suis redevable. Moi, je cite toujours mes sources. Et c'est tellement beau. On dit que c'est le Chopin norvégien, je crois.
C'est ça.
Il n'y a pas de hasard.
Merci beaucoup d'être venu passer cette heure et demie en notre compagnie. Et puis, on vous souhaite une très belle route. Et puis, on espère avoir un autre beau roman à lire d'ici là. En tout cas, d'ici là, j'invite tous les auditeurs à lire « Tous les hommes désirent naturellement savoir » de Nina Bouraoui. Merci beaucoup.
Merci.
Alice Sarah Ott interprétait cet adagio du concerto en la mineur opus 16 d'Edvard Grieg avec l'orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction d'Essa-Pekka Salonen. C'est la fin de cette émission en compagnie de Nina Bouraoui. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Un grand merci à Pierrick Charles qui était à la prise de son ce matin. C'est la grande Sophie Pichon qui a réalisé cette émission assistée de Marie Ferdinand. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Je vous souhaite d'ici là une très belle semaine à l'écoute de France Musique. À dimanche.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.